Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. À la une ce soir, les troupes américaines vont quitter l'Afghanistan. Annonce de la nouvelle administration du président Joe Biden. Une page se tourne, les États-Unis sont présents en Afghanistan depuis près de 20 ans. L'inquiétude des pêcheurs de Fukushima au Japon après la décision des autorités. Tokyo annonce que l'eau stockée dans la centrale nucléaire endommagée, cette eau qui sert à refroidir les cœurs des réacteurs, sera rejetée dans l'océan Pacifique. Dans cette édition également, des quarantaines à près de 2000 euros pour de nombreux voyageurs arrivant en Irlande. Et puis à J-100, dans 100 jours, le début des Jeux Olympiques de Tokyo et les incertitudes qui restent nombreuses.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
C'est la phrase du jour. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Voilà ce qu'a déclaré Joe Biden à propos de l'Afghanistan. Le président américain s'est exprimé ce soir depuis la Maison-Blanche. Les États-Unis vont entamer leur retrait définitif le 1er mai, affirme-t-il. Alors cette décision n'est pas une réelle surprise, car le retrait des troupes américaines d'Afghanistan est prévu, selon un accord conclu en février 2020 par son prédécesseur Donald Trump. Mais c'est une page qui se tourne. Les États-Unis sont intervenus en Afghanistan il y a près de 20 ans, suite aux attentats du 11 septembre 2001. Ils ont chassé du pouvoir les talibans, mais ils se sont ensuite enlisés dans ce pays qui reste instable. Avant le discours de Joe Biden, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'était exprimé un peu plus tôt dans la journée à propos de ce retrait. Je vous propose de l'écouter.
C'est un moment important pour notre alliance, près de 20 ans après les attaques du 11 septembre contre les États-Unis. Ensemble, nous sommes allés en Afghanistan pour faire face à ceux qui nous ont attaqués et pour nous assurer que l'Afghanistan ne devienne pas de nouveau un refuge pour des terroristes qui pourraient attaquer l'un d'entre nous. Et ensemble, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Et maintenant, il est temps de ramener nos forces à la maison. Et je suis ici pour travailler étroitement avec nos alliés, avec le secrétaire général, sur le principe que nous avons établi depuis le début, être sur place ensemble, s'adapter ensemble et sortir ensemble.
Voilà, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, aujourd'hui depuis Bruxelles, où il participait à une réunion au siège de l'OTAN. Car dans le sillage de la décision des États-Unis, les autres troupes de l'Alliance vont elles aussi quitter l'Afghanistan. La ministre allemande de la Défense l'a confirmé. Enfin, la réaction du président afghan Ashraf Ghani, qui s'est entretenu par téléphone avec Joe Biden. Il dit respecter la décision américaine et il affirme que les forces de sécurité afghanes sont pleinement capables de défendre leur peuple et leur pays. On part au Japon à présent, où l'émotion reste vive après la décision du gouvernement concernant la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Tokyo a en effet annoncé que l'eau stockée dans cette centrale, cette eau serait rejetée dans l'océan Pacifique. Alors c'est un sujet qui faisait débat. Il s'agit de l'eau utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs nucléaires touchés par le tsunami de 2011. Au total, cela représente 1,25 million de tonnes d'eau, de l'eau qui a été filtrée à plusieurs reprises pour retirer la plupart des substances radioactives. Mais le tritium va rester. Le tritium, c'est un radionucléide qui, selon les experts, est sans grand danger. Mais cela affole les pêcheurs de Fukushima. Écoutez plutôt ce reportage de Bruno Duval.
Les pêcheurs de la région de Fukushima accusent le coup, à l'image de ce responsable d'une coopérative qui s'attend au pire.
Ces rejets en mer, ce sera le coup de grâce donné à notre profession. Qui voudra encore acheter nos poissons quand on aura déversé tout ce tritium dans l'océan? Ils seront invendables, tous les consommateurs se méfieront. Et puis, ce sera dur aussi pour les commerçants des stations balnéaires. Quel touriste va oser venir se baigner dans une mer où on a déversé des eaux qui n'ont été que partiellement décontaminées? Bref, je croise vraiment les doigts pour qu'on n'en arrive pas là.
Les consommateurs vont-ils accepter de risquer de pourraient se retrouver avec, dans leur assiette, de la limande ou du maquereau au tritium. Ils pourraient finir par hésiter, y compris les plus solidaires, comme ces deux tokyoïtes croisés au rayon poisson d'un supermarché.
Depuis 2011, ma mère et moi, on achète systématiquement les poissons provenant de Fukushima pour aider tous ces pêcheurs qui sont vraiment formidables.
Avec tout ce qu'ils ont enduré, c'est bien de les soutenir. D'autant que, 10 ans après la catastrophe, leur vie n'est toujours pas facile.
18% seulement des sondés approuvent les décisions du gouvernement. Et 7 sur 10 déclarent qu'après de tels rejets en mer, ils y regarderont à deux fois avant d'acheter des poissons de Fukushima. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
La pandémie de coronavirus et le vaccin AstraZeneca toujours dans la tourmente. Aujourd'hui, le Danemark est devenu le premier pays d'Europe à renoncer définitivement à ce vaccin en raison du risque de caillots sanguins. Toujours dans la course à la vaccination, en revanche, le duo Pfizer-BioNTech va accélérer ses livraisons avec 50 millions de doses de ce vaccin Pfizer-BioNTech qui vont être livrées dès le mois d'avril. C'est l'exécutif européen qui l'annonce. Et puis également en Europe, on s'intéresse à l'Irlande, car à partir de demain jeudi, les voyageurs en provenance de plus de 70 États arrivant en Irlande devront passer 2 semaines en quarantaine à l'hôtel. Coût de cette mesure, près de 2000 euros à la charge des personnes, sauf les étudiants irlandais qui bénéficient du programme d'échange à l'étranger Erasmus. Les explications à Dublin d'Emeline Vin.
1 million d'euros mis de côté par le gouvernement irlandais pour payer la quarantaine de ses étudiants à leur retour d'Erasmus. Sur les 1000 jeunes Irlandais qui étudient en ce moment dans des universités européennes, la moitié vit actuellement dans des pays visés par la quarantaine obligatoire à l'hôtel. La France, l'Italie, la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg. L'État s'engage donc à payer les 1800 euros de facture pour leur séjour de 2 semaines dans un hôtel choisi par le gouvernement. La mesure, en revanche, ne s'applique pas aux étudiants internationaux obligés par leur cursus de venir en Irlande de ces pays, ni aux centaines d'autres Irlandais qui étudient à l'étranger hors programme d'échange. Ils sont par exemple 500 aux États-Unis, pays aussi sur la liste. La participation de l'État aux frais de quarantaine des étudiants Erasmus fait débat dans le pays. Certains contribuables autoproclamés dénoncent les différences entre citoyens irlandais revenant de l'étranger et jugent non essentiels les échanges universitaires alors que de nombreux établissements à travers l'Europe dispensent leurs cours par vidéo. Emeline Van Dublin, RFI.
Et puis dans 100 jours, soit un peu plus de 3 mois, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Prévu l'an dernier, reporté évidemment en raison de la pandémie de Covid-19. Alors les interrogations sont encore nombreuses, le nombre de spectateurs, la sécurité des athlètes notamment. Pour le reste, certaines traditions des JO vont perdurer évidemment, comme par exemple le porte-drapeau. Le porte-drapeau, c'est l'athlète qui représente son pays et un homme et une femme vont avoir cet honneur et les candidats sont nombreux en France, Christophe Dirémzian.
Pas obligatoire, mais préconisé par le CIO, la parité sera donc de mise en tête du cortège français le 23 juillet. Pour succéder à Teddy Riner en 2016, un mini-collège électoral a été formé, composé de 2 représentants par fédération olympique, un homme et une femme à chaque fois, des ambassadeurs votants, mais aussi candidats s'ils le souhaitent. Il ne s'agira pas de désigner nommément ses favoris, mais de les classer par ordre de préférence en leur attribuant des points. Ces candidats pourront ouvertement faire campagne, ils ont jusqu'à fin juin pour le faire. L'un d'entre eux, le perchiste Renaud Lavillény, déjà très investi dans la défense des athlètes au sein de la Fédération internationale, a un temps d'avance. Il a manifesté son intérêt depuis décembre 2019. La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon, 42 ans au moment de l'ouverture des Jeux de Tokyo, y pense depuis longtemps pour achever en beauté sa longue carrière. Autre favorite, Clarisse Agbenienou, quadruple championne du monde de judo. Mais peut-il y avoir 2 porte-drapeaux issus d'un même sport, d'une Olympiade à l'autre? Le choix de Florent Manoudou, au contraire, serait une récompense pour la natation, privée du rôle depuis 1968, à moins que les électeurs fassent preuve d'audace en désignant la spécialiste de voile, Charline Picon, moins connue, mais seule femme tenante d'un titre olympique parmi les prétendants.
Christophe Dirémzian du service des sports de RFI, également en sport, football. Suite et fin des quarts de finale au retour de la Ligue des Champions ce soir. Les 2 affichent actuellement le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool et le Borussia Dortmund qui accueille Manchester City. Pour rappel, les 2 premières équipes qualifiées pour les demi-finales sont les Anglais de Chelsea et le Paris Saint-Germain, vainqueur hier du Bayern Munich. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 22h10 ici, à Paris.